Bonjour, ici David et bienvenue à la saison 4 de Quelle Histoire. J'espère que t'as la pêche. Quelle Histoire est de retour pour cette nouvelle saison qui, je vous garantis, sera magnifique avec des invités de qualité aussi meilleurs les uns que les autres, comme d'hab. Dans chaque épisode, je déroule le tapis rouge pour un ou une invitée qui se démarque dans notre société. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Abonne-toi pour recevoir les notifications des nouveaux épisodes. Like parce que c'est un bon petit moment à passer ensemble et partage parce que ça ne mange pas de pain. Aujourd'hui, je me pose avec une dame tourmentée par des problèmes familiaux et qui a fini malheureusement à sombrer dans l'abîme de la drogue, cherchant un réconfort éphémère dans les bras trompeurs de la toxicomanie. Sa quête pour échapper à la douleur émotionnelle a été marquée par une série de choix destructeurs qui l'ont éloignée de ce qu'il aimait le plus. Un jour, elle trouva la force de se libérer de ce piège insidieux et reconstruire les liens brisés avec sa famille. Alors, je vous laisse découvrir qui est Viviane Drescher. Bonjour Viviane, comment vas-tu?
Je vais super bien, merci. Et toi?
Ouais, très bien, très bien. Comment va la vie?
Pour vrai, ça va vraiment bien. Je viens de toucher mon 3 mois de sobriété sans alcool, 2 mois sans pote. J'ai vraiment repris la maîtrise de ma vie avec la sobriété. Donc, je suis vraiment contente que ma vie reprenne son cours tranquillement comme ça, là, de la bonne façon, enfin.
Et bah, c'est très bien. Et l'été, top. Tu as passé un bel été?
Oui, quand même. J'ai quand même évité toutes les bars, toutes les terrasses, toutes les choses qui allaient m'emmener vers le mauvais chemin. À place de ça, je me suis bookée plein de meetings, des meetings dans des fraternités, des meetings dans des centres de bien-être. J'ai fait beaucoup de studios musique. J'ai eu la chance également de starter ma shop à tatou à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, j'ai vraiment profité de mon été pour devenir une meilleure version de moi-même puis de mettre à terme là, mes projets là, que j'avais depuis longtemps là, qui étaient restés sur pause.
Là. Ah, d'accord. Donc, changement de décor, fais-moi visiter ton enfance. T'es né où? Ta famille? Tes frères et sœurs, si t'en as? En gros, qui est Viviane?
Qui est Viviane? Ben, Viviane, en fait, elle est née le 9 septembre 1989. Je suis née à Laval. Mm-hmm. Mais j'ai grandi, en fait, toute mon enfance à Saint-Anne-des-Plaines, c'est où est-ce que je demeure en ce moment. Et j'ai grandi, en fait, avec ma grande sœur et j'ai un demi-frère qu'on a 9 ans de différence. En fait, mon enfance n'a pas été super facile. Mon père a été absent jusqu'à mes 7 ans. Mm-hmm. Puis ensuite, ben, il a été back and forth là, tout le long de ma vie à cause qu'il y avait des problèmes de consommation. Mm-hmm. Fait que mon père a également 3 autres enfants qu'il a conçus à Vancouver avec une autre femme. Et puis, très jeune, ben, j'ai dû avoir de grandes responsabilités pour aider ma mère qui était monoparentale, tu sais. Mm-hmm. Fait que, justement, mon petit frère avec qui j'avais 9 ans de différence, ben, je vais le garder là, à mon jeune âge pour que ma mère puisse pouvoir aller travailler, tu sais. Donc, j'ai été longtemps le bras droit de ma mère, puis disons que ma relation, mettons, avec ma sœur a toujours été très difficile. À l'âge de 12 ans, j'ai été dans une famille d'accueil par moi-même, ça s'appelait le Petit Patro, à Sainte-Thérèse. Et puis, j'avais demandé en fait à ma mère de m'emmener là-bas parce que je me sentais pas aimée, reconnue. Tu sais, je vivais beaucoup d'injustices là, déjà là dans ce jeune âge-là. Mm-hmm. Puis, en fait, ce service-là, ça a été dans notre famille de génération en génération, tu sais. Fait que c'est aujourd'hui, cette année, que moi, j'ai décidé de casser la roue dans tout ça. Mm-hmm. Mais aussi, tu sais, il y avait comme un secret de famille, tu sais, qui a fait en sorte que ben, qui m'a été révélée à mes 33 ans. Mais ce secret de famille-là, ça a fait en sorte que, veux pas, ma mère qui avait honte de tout ça, c'était plus facile pour elle de nier la réalité, puis de me tasser, t'sais, puis de négliger ce qui m'arrivait parce qu'elle voulait pas vraiment faire face à la situation. Fait que ça l'a fait en sorte que j'ai vécu beaucoup, justement, d'injustice. T'sais, ça, je le ressentais, t'sais, toute ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'est-ce qui est arrivé, tu sais. Je vois les choses d'une façon différente. T'sais, on a pu en discuter, on a pu faire un trait là-dessus, se pardonner, puis passer à autre chose. Fait que aujourd'hui, c'est pas mal mieux, mais tu sais, j'ai quand même ressenti cette injustice-là toute ma vie, ce qui a fait en sorte que je me suis jamais sentie reconnue ou acceptée là, dans, au sein de ma propre famille. Fait que très jeune, j'ai travaillé tôt pour me débrouiller, pour avoir mes choses par moi-même, parce qu'en fait, ma mère, comme étant donné qu'elle était monoparentale, tu sais, on n'avait pas de gros moyens, on n'a jamais manqué de rien, mais tu sais, j'ai pas vraiment eu une enfance où est-ce que j'ai pu m'épanouir là, comme enfant, mettons.
Qu'as-tu fait dans ton passé que tu regrettes le plus?
Dans mon passé, ce que je regrette le plus, en fait, c'est d'avoir voulu me saboter. T'sais. J'ai voulu longtemps comme ça, briser mon image. Là, j'avais tellement besoin d'être reconnue, d'avoir de l'attention, que comme un enfant de 7 ans, là, ben, moi, j'attirais la mauvaise attention pour faire réagir. Là, parce que souvent, je me disais « who cares? » Fait que dans mes moments les plus sombres où est-ce que je n'étais pas vraiment fière de moi, je te dirais, j'ai tombé fortement dans la consommation de potes et d'alcool aussi. Là, tu sais, j'étais vraiment avec des modes autodestructeurs envers moi-même. J'ai eu des gros épisodes noirs, là, comme ma première grosse épisode noire, c'est suite à un accident de la route que j'ai fait un face-à-face il y a exactement 10 ans. Puis à ce moment-là, en fait, j'avais tout perdu. Là. À ce moment-là, en fait, je dansais, puis j'avais pas vraiment une vraie carrière là, en avant de moi. Donc, quand j'ai eu mon accident d'auto, la SAC m'avait pas reconnue en tant que travailleuse, là, tu sais. Donc, j'ai pas eu d'indemnisation pendant 6 mois, tu sais. Fait que tu comprends, 6 mois sans argent, tu peux pas garder grand-chose autour de toi. Fait que j'ai carrément tout perdu. Avec ma famille, ça l'avait pas bien non plus. Fait que j'avais perdu aussi tout lien d'appartenance avec eux. Ce qui m'a rendu dans un état dépressif, au point que je voulais mourir. Là, j'ai subi en plus une erreur médicale qui a fait en sorte que j'ai perdu 25% de la force de mon bras gauche. Donc, ça a été vraiment une dure épreuve par la suite. Ça a été vraiment dur de se relever. Puis donc, à partir de là, ça a été ma première crise là, d'épisode noir de TPL, mais je savais pas que j'étais TPL. On me disait dans ce temps-là que c'était circonstanciel, puis que j'étais pas folle, que c'était normal avec tout ce que je vivais, que je vivais ce gros vide-là intérieur, là, mais à ce moment-là, j'avais vraiment peine et misère là, à me donner l'amour que je mérite, là.
À quel âge as-tu commencé à consommer?
À 12 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. À 14 ans, j'ai commencé à fumer du pot puis boire de l'alcool. Puis, tu sais, dans le temps, c'était l'ecstasy qui était bien à mode, là, tu sais, j'en faisais, mais vraiment pas régulièrement, tu sais, c'était vraiment comme, mettons, à Saint-Jean, au jour de l'an, tu sais, à des partez quelconque, là, t'sais, parce que moi, je voyais mon père qui était dans grosse consommation, puis je me disais, t'sais, moi, je veux jamais virer comme ça, là, t'sais. Puis je savais que j'aimais ça, puis moi, dans la vie, je suis quand même excessive, t'sais, fait que je savais que je pouvais pas me permettre de faire ça à toutes les fins de semaine, parce que j'allais tomber vraiment dans le vice, ça allait être vraiment dommageable pour ma personne. Sinon, côté consommation, j'ai jamais été attirée par les grosses drogues, comme, mettons, le GHB, je m'en ai déjà fait mettre dans mon verre à mon insu, puis j'ai wipé, là, tu sais, fait ça, ça aussi, je savais que c'était pas fait pour moi. Mm-hmm. Et puis, mettons, pour qu'est-ce qui est de la cocaïne, oui, j'en ai déjà fait, mais j'en ai jamais acheté, j'ai jamais eu de problème de ça, tu sais, au même titre que, mettons, l'ecstasy dans le temps quand j'étais plus jeune, j'ai jamais vraiment accroché à ça, tu sais, moi, ma drogue de choix, c'était vraiment le pot. Je cherchais plus, moi, à m'éteindre qu'à me stimuler, tu sais, c'était plus... du sabotage, moi, quand que je consommais. Donc, je prenais jamais vraiment rien pour me mettre sur un high. Moi, je préférais comme vraiment m'éteindre, là, tu sais. J'étais pas trop pour les stimulants, là.
Tu jongles entre différents métiers, des poseuses de céramique, tatoueuses, techniciennes en pose de cils. Pourquoi fais-tu tout ça en même temps? Est-ce que tu essaies de rattraper le temps perdu?
Ben oui, puis non, je te dirais, je fonctionne avec ce que mon corps me permet de faire. Malheureusement, comme que je disais, suite à mon accident, mon corps n'est plus le même. Ça fait 10 ans que j'utilise pas mal en majorité mon bras droit.
D'accord.
Puis j'ai travaillé comme 3 ans en carrelage à temps plein. Et puis, juste pour le fait que j'étais seule avec mes deux enfants, je travaillais 12 jours sur 14, c'était vraiment dur là, de garder le cap. Là. J'ai fait ça pendant un an là, avec mes enfants toute seule. Et puis, c'était quand même des grosses horaires. C'était vraiment comme quand même dur là, avec deux jeunes enfants de 1 an et 3 ans de travailler dans la construction, puis se rendre loin, puis le trafic et tout et tout. Même que j'avais travaillé de nuit là, à l'aéroport de Dorval, on faisait la céramique, là, on réparait les tuiles dans la nuit. Tu sais, j'étais une fille très, très, très travaillante, mais à un moment donné, tu sais, c'était trop pour moi. Fait que j'ai changé de direction, j'étais allée vers l'esthétique. J'ai commencé à travailler dans un salon, j'ai fait des cils, j'ai fait des ongles, j'ai eu l'opportunité de recommencer à faire du tatouage également à ce moment-là. Fait que par la suite, il y a le COVID qui est arrivé, tu sais, fait que là, j'avais les salons qui ouvraient, les salons qui refermaient, la clientèle qui vient, qui repart, etc. Fait que là, c'était difficile d'avoir une certaine stabilité financière. J'ai recommencé tranquillement à faire un peu de céramique, à prendre des petits contrats ici et là, puis en fait, ben plus de soins et de services que je peux offrir, bien, plus d'abondance en clientèle que je peux avoir. Fait que de pouvoir toucher un petit peu à tout, pour moi, ça me permettait d'avoir une plus grosse clientèle, tu sais, qui vienne vers moi. Tu sais, des fois, un client de tatou pouvait m'emmener une job de céramique, ou un client de céramique pouvait m'emmener sa blonde pour faire ses ongles puis ses cils, ou tu sais, vice-versa. Tu sais, ça faisait effet vraiment boule de neige pour faire en sorte que j'aie plus de clientèle qui vient vers moi. Fait que moi, j'aime ça quand les semaines se suivent, mais se ressemblent pas. Tu sais, j'aime vraiment... ne pas faire toujours la même chose, là, tu sais.
La routine, c'est pas ton truc.
Non, c'est pas mon truc. Puis en même temps, tu sais, oui, des fois, je devais rattraper le temps perdu parce que des fois, quand, mettons, psychologiquement, ben, je suis dans un gros down, ben, je vais beaucoup procrastiner, tu sais. Je vais pas pousser à faire de la publicité. Je vais juste, comme, travailler pour survivre. Puis là, à un moment donné, ben, vient que je suis dans un high, là, tu sais. Puis là, ben, dans un high, ben, je vais être partout, puis avec tout le monde en même temps. Fait que là, je vais vouloir travailler beaucoup pour rattraper les mois passés ou les semaines passées où est-ce que j'allais moins bien. Puis là, ben, à un moment donné, ben, je me brûle, hein, comme tout le monde. Puis là, je retombe, là, tu sais. Fait que, ouais, souvent, je vais être plus du genre à rattraper le temps perdu, mais j'aime vraiment quand même avoir une certaine diversité, là, dans mes tâches, là.
En t'écoutant parler, je me rends compte qu'il y a la Viviane d'avant et la Viviane de maintenant.
Oui.
OK. Donne-moi un exemple de la pire version de toi, dans le passé, évidemment, et de la meilleure version de toi, maintenant.
Eh bien, la pire version de moi, je te dirais que je t'ai rendu... que je mangeais plus, je m'isolais des gens parce que souvent l'isolement ça fait moins mal que le rejet, tu sais. Je fumais énormément pour m'éteindre, puis le pot, ben ça me causait beaucoup d'anxiété, mais dans ma tête, ben moi je me donnais l'impression que ça pouvait m'aider à me déposer, puis en même temps ça gelait mes sentiments indésirables, tu sais, que je voulais plus ressentir, tu sais. Fait que j'ai été pas mal dans l'inaction. Puis, tu sais, habituellement, je suis une fille fonceuse dans la vie, j'ai de la drive, j'inspire les gens, je suis multifonctionnelle. Mais quand je suis dans le pire de moi-même, dans une grosse épisode noir, ben je m'éteins complètement. Je travaille juste pour survivre, comme que je disais. Puis, un jour, je vais croire en moi, je vais avoir beaucoup d'ambition. Puis, l'autre jour, ça peut retomber. Puis, je vais tout remettre mes projets de côté parce que tout d'un coup, je ne crois plus en moi. T'sais, c'est toujours comme des montagnes russes d'émotions. Puis là, ben, dans ce temps-là, quand je ne suis pas dans une bonne crise, t'sais, comme je t'ai rendue une mère que j'aimais pas. Je n'aimais pas la mère que j'étais rendue parce que j'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'avais besoin d'aide, j'en avais pas. Fait, t'sais, j'étais vraiment à bout de ressources. Puis je savais que mes enfants méritaient une mère plus patiente, plus aimante, plus réceptive, plus à ses affaires. Puisque j'aimais pas en fait la mère que j'étais, j'avais beaucoup de misère à lui donner de l'amour à cette personne-là, t'sais, en fait, parce que je m'aimais pas.
Mm-hmm.
Puis quand on s'aime pas, ben on se détruit, t'sais, on a honte, on vit de la culpabilité. On consomme encore plus pour pouvoir ne... Ben, parce qu'on pense qu'on se sent moins quand on consomme plus. On essaie de s'éteindre, mais non, j'étais complètement dans un gros trou noir, puis je voyais pas vraiment d'espoir, au point que j'avais carrément l'envie de mourir. Là,
mm-hmm.
Puis si je regarde la fille que je suis rendue aujourd'hui, ben j'ai réalisé que finalement, j'étais une bonne personne, que j'avais juste besoin d'être. J'avais besoin d'être reconnue, j'avais besoin d'être validée, tu sais, j'avais besoin de me retrouver parce qu'en fait, quand on devient une maman, tu sais, on s'oublie parfois, tu sais, les besoins de nos enfants vont passer en premier. Puis avec mon trouble de la personnalité, bien, ça fait que souvent, on va devenir la personne que l'autre personne veut que tu sois, tu sais, pour lui plaire, pour être sûr de ne pas la perdre, pour être sûr qu'elle t'aime, qu'elle t'abandonne pas. Fait que tu deviens toujours la version de la personne que tu n'es pas, dans le fond, tu sais. Fait que j'étais complètement perdue. Je savais pas qu'est-ce que j'aimais. Je savais pas qu'est-ce que je voulais. Je savais pas... vraiment, on me demandait, Viviane, toi, c'est quoi que tu aimes faire comme hobby? Ben, je savais même pas quoi dire.
Mm-hmm.
Je me reconnaissais plus. Fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai pris du temps, tu sais, pour moi, pour apprendre à connaître c'est qui Viviane, c'est quoi qu'elle aime, Viviane, c'était quoi ses buts premiers, Viviane, dans la vie, tu sais, c'était quoi ses rêves, là, tu sais. C'est ce que j'ai été chercher cet été, tu sais, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps de reconnecter avec mon enfant intérieur, tu sais, puis de revenir à la base, tu sais, c'est quoi que Viviane, elle voulait comme rêve, mais Viviane, elle voulait chanter, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire du studio de musique, là, au lieu de consommer, ben, je me suis tenue dans un studio de musique tout l'été, puis j'ai travaillé sur ma carrière, travaillé sur des projets avec d'autres personnes, j'ai appris vraiment à remplir mon vide avec des projets qui me tenaient vraiment à cœur, t'sais. C'est comme le tatouage, t'sais, c'est payant faire du tatouage quand tu as une clientèle fixe, là, t'sais, quand tu as une clientèle qui vient facilement. C'est, c'est bien de pouvoir s'épanouir dans son côté artistique.
Mm-hmm.
Mais moi, c'était tout mort là, de ce côté-là. T'sais, fait que j'ai retrouvé le vouloir de user de ma création. Là, t'sais, la création, c'est important pour moi de pouvoir m'épanouir dans ce côté-là, dans tout ce qui est art. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout ce que je fais, ça touche l'or, autant les cils, les ongles, la céramique. La céramique, c'est comme un gros puzzle format humain, là, tu sais. Tout ce que je fais, c'est artistique, les dessins, la musique, là, tu sais. Dans le fond, je suis un artiste à 100%. C'est juste que j'étais complètement perdue, que je savais plus qu'est-ce que j'aimais puis qu'est-ce que je voulais faire, tu sais. Fait que ça m'a vraiment comme permis de me retrouver puis devenir vraiment comme la meilleure version de moi. J'avais besoin de retrouver c'était quoi que j'aimais puis de me choisir en fait.
Où étais-tu quand tu as été diagnostiqué du trouble de la personnalité limite?
J'ai eu mon diagnostic le 28 octobre 2021.
D'accord.
C'est dans le fond, quand je te dis que souvent on va faire des choses pour salir son image, ben, dans la situation que j'étais rendue, j'étais vraiment dans le gros sabotage là, de moi-même. Là.
comment on diagnostique déjà ce trouble-là de comportement limite, mais quels sont les symptômes?
En fait, il y a trois mots pour décrire le TPL. Ça va être l'impulsivité, l'instabilité, puis l'intensité. Fait qu'en gros, quand on est content, on est super content. Quand on aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais quand on n'aime pas, on n'aime pas. Tu comprends? Quand on est triste, on est super triste. En fait, les émotions, on les vit fois mille. C'est pas juste une expression. On les vit fois mille. Autant les bonnes émotions que les mauvaises. On peut passer du jour au lendemain de l'idéalisation d'une personne au dégoût total. On va être des personnes qui vont être portées beaucoup à l'autosabotage. On va peut-être, souvent les gens, ils vont faire des choses pour avoir beaucoup d'adrénaline, par exemple, de la conduite dangereuse. Souvent les filles TPL vont se ramasser aussi dans le domaine du sexe, là, comme danseuse ou whatever. On va tout avoir un petit côté sexuel, pas dérangé nécessairement, mais peut-être des fois un petit peu plus ouvert que les autres. Il y a des choses que pour nous, c'est normal, mais que pour les autres, c'est comme insensé. On va être vraiment comme des personnes intenses dans ce qu'on fait. Là. C'est soit qu'on y va à côté, puis on est intense, on y va... Puis on go, on a des gros projets, puis du jour au lendemain, ben, ces projets-là, ils peuvent prendre le bord, puis tu peux être complètement à terre. T'sais. C'est des émotions qui passent vraiment de up and down, mais tout ça dans la même journée. Fait que des fois, juste un détail peut complètement scraper ta journée, juste parce que quelqu'un t'a pas répondu la bonne réponse. C'est comme, en fait, notre cerveau est dysfonctionnel, OK? Fait que quand il arrive un événement, on va le percevoir tellement gros, même si c'est pas si pire que ça, parce que les émotions qui nous submergent sont tellement intenses. Puis tu sais, c'est vraiment l'information de notre cerveau qui se rend, quand il se rend, bien, il est dysfonctionnel. Fait que ça arrive avec une intensité que des fois, on comprend même pas pourquoi qu'on se sent comme ça, ou des fois, c'est plus fort que nous, on va faire quelque chose, même si on sait que c'est pas bon pour nous, ou que c'est dangereux, ou peu importe, mais on va le faire pareil juste à cause de l'impulsion, tu sais. Souvent, les gens... en fait, 85% des TPL meurent parce qu'ils s'enlèvent la vie, simplement. Puis les autres, ben, ils peuvent finir par mourir parce que, justement, un accident d'auto, surconsommation de drogue ou des affaires comme ça, tu sais, parce que souvent, mettons, les hommes TPL, ils vont finir soit en prison ou soit qu'ils vont vendre la drogue, des choses comme ça. Tu sais, vraiment des jobs à risque.
Au cours de quel événement t'as été diagnostiqué justement?
J'étais en gros sabotage de moi-même, fait que j'ai fait un gros drame dans ma famille parce que j'avais ouvert un OF, un OnlyFans. Tu vois, quand je te dis que je sabotais mon image, mais tu sais, j'avais besoin d'aide, j'en avais demandé de l'aide, mais j'en recevais pas. Fait que moi, j'étais comme, bon, ben je vais leur montrer que je vais pas. Tu sais, inconsciemment, tu sais, c'est ce que je me disais. Tu sais, j'ai arrêté de manger pour que le monde y voie à quel point j'allais pas bien. J'étais rendue, j'ai passé de 155 livres en décembre, puis rendue en octobre, j'étais rendue à 105 livres. Là, t'sais, j'étais comme, ils vont bien voir à un moment donné que je vais pas bien. Là, t'sais. Je me suis vraiment ramassée à un point tel de, t'sais, j'ai perdu tout lien de parenté autour de moi. Fait que quand je me suis ramassée complètement toute seule, puis j'ai décidé de... Je demandais, moi, à mon ex de prendre la garde des enfants un petit peu plus, parce qu'à ce temps-là, je les avais à temps plein, tu sais. Puis j'étais carrément en détresse psychologique depuis le COVID, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, quand je m'en allais, dans le temps avant que je me rende à l'hôpital, tu sais, je venais juste de donner la garde partagée à mon ex. Fait que j'avais comme sept jours pour tomber dans mon trou, parce que pendant 7 jours, mes enfants n'étaient pas là. Fait que c'était 7 jours que je me détruisais, que je faisais juste comme fumer, boire, chanter. Tu sais, je fonctionnais pas, je mangeais plus, parce que je me sentais inutile parce que mes enfants n'étaient pas là. Fait que je me suis vraiment ramassée dans un gros trou. Puis c'est quand mon beau-frère, le mari à ma soeur, il a voulu venir rejaser d'une chicane qu'on avait eue par rapport à mon OnlyFans. Puis que là, il a vu mon état. Là, j'étais rendue toute maigre, grise, puis... j'étais même plus capable de rien manger, ça faisait 4 jours. Là, il a décidé de m'emmener à l'hôpital, tu sais. Fait que j'étais allée à l'urgence, puis je leur ai dit, tu sais, que j'avais envie de mourir, tu sais, que j'avais peur pour ma vie, puis que j'étais tannée de souffrir, tu sais. Fait que j'ai passé 6 jours à l'hôpital, Ça n'a pas été long, en fait, qu'ils me donnent un diagnostic parce que, tu sais, les personnes, quand on est TPL, on a tellement peur de l'abandon, du rejet, de ces choses-là. C'est des blessures qui viennent vraiment nous faire du mal, là, la trahison, ces choses-là. T'sais, c'est vraiment des grosses blessures qui vont vraiment, vraiment nous faire du mal. Puis, en fait, tu sais, moi, tout ce que je voulais, c'est d'être aimée, d'être acceptée par ma famille. Fait que ça a été un combat comme ça toute ma vie, cette invalidation-là que j'ai tout le temps eue. T'sais, j'ai tout le temps comme cherché à avoir la vérité, cherché à avoir de l'aide, cherché à être acceptée. Puis ça fait partie des symptômes aussi d'un TPL, parce qu'un TPL a extrêmement peur de l'abandon. Mm-hmm. Des fois, ben, il va tellement avoir peur de l'abandon qu'il va le créer, tu sais, fait que, en sabotant tout ce qu'il y a autour. Fait que c'est vraiment difficile, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est ça, je me suis ramassée à l'hôpital après 6 jours. J'ai mon ex qui me demandait quand est-ce que je sortais, parce que sa blonde a trouvé ça dur d'avoir les enfants à la maison si longtemps, tu sais. J'étais comme, ouais, mais tu comprends-tu ce que je vivais? Ça fait 2 ans que je suis seule avec eux puis que je te demande de l'aide, tu sais. J'étais vraiment jamais reconnue dans ce que je vivais, puis de pas être validée, c'est un des grands symptômes. Ben, en fait, tu deviens TPL parce que tu as vécu des traumas dans ton enfance, quand tu as un bagage biologique d'hypersensibilité et quand tu as vécu beaucoup d'invalidation dans ton enfance. Fait que moi, comme quand je dis que j'ai jamais été validée, c'est toujours ça que je recherchais. Fait que c'est pour ça, souvent, je lançais des posts sur Facebook où est-ce que je partageais mon histoire, parce que les autres personnes, ils validaient ce que je vivais. Les autres personnes venaient me donner un petit mot de courage, ou un partage de leur vie pour me dire, moi aussi j'ai vécu quelque chose de sensiblement pareil, je comprends ce que tu vis, tu sais. Puis ça, le partage, des fois, là, c'est juste ça qu'on a besoin, parce que quand on partage avec d'autres personnes, tu sais, ça nous enlève un gros poids de culpabilité qu'on a sur les épaules quand on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, quand on se compare aussi, tout seul. Fait que moi, j'allais chercher ça indirectement, sans le savoir, c'était ma façon à moi de me sentir reconnue dans ce que je vivais, parce que les gens autour de moi, les gens qui ont fait partie de tout ça dans mon enfance, bien, ils reconnaissaient pas leur tort par rapport à ça, tu sais. Ils comprenaient pas que je les accuse de ça, mais en fait, tu sais, si j'ai été invalidée toute ma vie, c'est les personnes avec qui j'habitais qui m'ont invalidée, c'est pas Pierre-Jean-Jacques, tu sais. Puis les problèmes relationnels que j'ai, ben c'est pas avec tout le monde, c'était seulement avec ces personnes-là en tant que telles. Tout ça, pourquoi? Parce que je voulais être aimée. C'est vraiment une blessure de l'abandon, tu sais, c'est le rejet, c'est tout ça, c'est vraiment ça qui rend une personne TPL malade, c'est l'abandon, le rejet, la négligence, ces choses-là, tu sais.
Et où en es-tu dans ton cheminement? Te considères-tu, ça y est, c'est géré, tu gères, ou t'as encore du chemin?
Je te dirais, j'ai un bon chemin de fait. Quand je regarde la Viviane que je suis aujourd'hui versus la Viviane de 2 ans, j'ai tellement changé. Je me suis inscrite en fait à la thérapie pour les TPL. C'est la thérapie comportementale dialectique de Marshall Linehan. C'est une thérapie de 21 semaines quand même. Et puis, cette thérapie-là m'a aidé vraiment à être capable de gérer mes émotions, tu sais, d'être capable de faire un stop, de regarder en fait avec une vision éclairée de la chose. C'est pas trop être tenté par les émotions ou être dans la rationalité, là, tu sais, d'être capable d'être entre les deux, d'être capable de faire un stop, de contrôler mon impulsivité aussi, apprendre à faire des demandes aux gens, tu sais, de la bonne façon aussi. À reprendre la maîtrise de mon corps physique, parce qu'on s'entend, quand tes besoins de base ne sont pas comblés, tu sais, que ça soit manger, dormir, prendre la bonne médication ou juste être justement sur des substances qui altèrent ton comportement, bien, tous ces besoins de base-là qui ne sont pas comblés, bien, une fois qu'ils sont comblés, bien, ça va mieux, tu sais. Fait que j'ai vraiment appris à gérer mon trouble avec toutes les compétences que j'ai appris là-bas. Ça m'a vraiment donné un coup de pouce. Par la suite, j'ai fait une retraite spirituelle. Ça m'a aidé beaucoup, tu sais, parce que moi, dans le temps, on me disait, Viviane, tu devrais méditer. Mais Viviane, elle ne pouvait pas méditer. Elle n'était même pas capable d'aller aux toilettes toute seule avec ses 2 enfants. Fait que je ne savais pas quand est-ce que je pouvais méditer, mais les thérapeutes, quand j'ai finalement vu des psychologues, des thérapeutes suite à mon diagnostic, ils me disaient « Bon, ben, peut-être que la méditation, ça pourrait t'aider. » Fait que j'ai commencé à ouvrir mon côté spirituel, tu sais, puis essayer de méditer un petit peu, puis m'en aller dans cette direction-là. Puis ça m'a quand même vraiment beaucoup aidée, c'est d'ouvrir ma spiritualité, de mettre ça des fois entre les mains de ma puissance supérieure, tu sais, parce que des fois, quand on peut pas changer les choses, ben faut les accepter telles qu'elles sont, tu sais. Faut avoir la force de changer les choses qu'on peut, tu sais. Fait que ça m'a vraiment aidée à ouvrir sur ma spiritualité. Puis par la suite, j'étais allée aussi au centre Attitude. Puis au centre Attitude, j'ai vraiment pu faire vraiment le ménage de tout le mal que j'ai vécu dans le passé. Vraiment de faire la paix avec le passé. Justement, comme ma mère, aujourd'hui, on a une super bonne relation. Elle aussi, je l'ai envoyée à Attitude. Puis Attitude, dans le fond, c'est pour toutes sortes de dépendances, là, que ce soit la dépendance au sexe, à l'alcool, à la drogue, de la dépendance à tes enfants, de la dépendance affective, de la dépendance à tes coéquipiers de travail, de la dépendance aux jeux, au magasinage compulsif. C'est vraiment pour toutes sortes de dépendances. Fait que quand tu vas là-bas, tu te rends compte que t'es pas juste, mettons, dépendant aux potes ou dépendant à l'alcool. T'avais des bobos intérieurs qui ont fait en sorte que tu t'es rempli en consommant autre chose, que ça soit des personnes, que ça soit des substances, là, tu sais. Fait que, en sortant de là, puis en ayant fait vraiment la paix avec mon passé, j'ai été capable d'aller de l'avant, tu sais. Puis de recréer un lien de confiance que j'avais jamais vraiment eu avec ma mère. Puis une fois que tu crées ce lien de confiance-là qui avait jamais eu lieu, ben après, j'ai pu faire confiance aux autres, puis j'ai pu faire confiance à la vie. Mais avant ça, c'était pas possible pour moi de faire confiance aux autres puis à la vie, parce que la personne la plus proche de moi que j'aurais dû faire confiance depuis mon enfance, je pouvais pas. Fait que maintenant, ce lien-là, il est créé, puis on a une super belle relation, puis maintenant, on chemine une à côté de l'autre. Puis, tu sais, j'avais réalisé que j'étais en train de reproduire la même chose que ma mère, elle avait vécu, tu sais. Fait que ma mère que je voyais comme une victime de la vie, puis que je jugeais son parcours, ben j'étais en train d'emprunter le même, tu comprends? Fait qu'aujourd'hui, ben on est toutes les deux en rétablissement, puis on fait ça côte à côte, puis on s'aide là-dedans, puis c'est tellement beau à voir, tu sais, parce que des fois, quand un enfant va se guérir, ben ça va se transmettre à travers ses parents, puis la même chose, quand un parent se guérit, ça se transmet à travers ses enfants également. Fait que quand t'es content, quand tu vas mieux, tes enfants, ils vont mieux. Puis quand t'es content, tu vas mieux, tes parents aussi peuvent mieux aller, tu sais. Fait que c'est vraiment comme venu guérir comme le lien familial là, qui avait toujours été manquant. Là.
Quel est ton film préféré de tous les temps et pourquoi?
Mais moi qui ai toujours voulu être une chanteuse depuis le jeune âge, je te dirais mon film préféré, c'est Selena.
Selena, ouais.
Faite par...
avec... comment
est-ce Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, ouais. Donc, dès mon jeune âge, cette femme a été vraiment comme mon idole de femme, là, la femme parfaite. Les chansons là-dedans, c'était tellement beau, l'histoire d'amour à travers tout ça, c'était vraiment comme une belle histoire. La fin tragique, dès mon jeune âge, là, à 7 ans, je me souviens d'avoir pleuré de chaudes larmes. Quand j'ai fini d'écouter ce film-là, j'étais comme « Oh my God, là, ça m'avait touchée ». Puis d'année en année, à chaque fois que je l'ai réécouté, j'ai vu le film d'une façon différente. T'sais, maintenant, avec mes yeux d'adulte, ce que j'ai réalisé et ce que j'ai vu à la fin de ce film-là, c'est que c'est souvent les personnes qui sont le plus proches de toi qui vont te jalouser puis qui vont te trahir. Parce que, tu sais, quand tu as une lumière, là, c'est pas tout le monde qui a la même lumière que toi, tu sais. Souvent, les gens, ils sont jaloux de la lumière que tu vas avoir. Fait que c'est plus facile de te rabaisser, de te descendre pour se sentir valorisé ou même de te trahir pour pouvoir enfin avoir ta chance, là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, que j'ai réalisé au fond là, dans ce film-là. Là.
D'accord. Et quelle est ta chanson préférée de tous les temps? Je sais que tu dois en avoir plusieurs vu que t'es chanteuse, tout ça, mais si je te refilais $1 million, je te disais d'en choisir une.
Mais il y a une chanson qui m'a beaucoup, 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 beaucoup travaillé durant mon cheminement, puis c'est « Anyone » de Demi Lovato. Cette chanson-là est tellement puissante. En fait, je me reconnaissais tellement dans cette chanson-là. C'est en fait cette chanson-là qui m'a fait connaître cet artiste. Quand je suis tombée sur cette chanson-là, je ne pouvais pas ne pas l'apprendre. Puis on va se le dire, elle est très difficile à faire. J'y arrive pas tout le temps, en fait, là. Mais c'est une chanson tellement touchante, tu sais, que... Tu sais, au fond, tout ce qu'elle a besoin, c'est de se sentir aimée, d'avoir un peu d'affection, tu sais, puis d'avoir de quoi à quoi s'accrocher, tu sais, pour pouvoir s'en sortir. Puis je trouve que ça représente beaucoup la Viviane, tu sais, qui avait besoin de l'entendre, cette chanson-là, tu sais. Fait que cette chanson-là m'a marquée, elle va toujours rester, là. I tried to talk to my piano, I tried to talk to my guitar, talk to my imagination, confided into alcohol. I tried and tried and tried some more, told secrets till my voice was sore, tired of empty conversation, 'cause no one hears me anymore. 100 million stories and 100 million songs, I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody.
On va passer à l'entretien vérité. Si tu pouvais créer une loi que tout le monde devrait appliquer, que serait-elle?
Mais je te dirais, là, tout le monde devrait redonner au suivant. Tu sais, je trouve que les gens sont égoïstes, sont centrés sur leur personne, puis ils se rendent pas compte que le partage puis l'entraide, c'est la clé du bonheur. Tu sais, plus que tu donnes dans la vie, plus que la vie te remercie puis te renvoie à plus grande échelle. Tu sais, les gens devraient être généreux de leur personne, de leur temps. Tu sais, même si le temps est précieux, tu sais, j'ai réalisé que ceux qui ont le moins à offrir, que ça soit du temps ou que ça soit du matériel ou de l'argent, c'est toujours ceux qui ont le moins à offrir qui offrent le plus. Puis ça, je trouve ça triste, tu sais. Si t'en as beaucoup d'argent, là, ben fais-la circuler ton argent parce que, tu sais, tu sais jamais ce qui va t'arriver, tu sais. Puis je trouve vraiment qu'on devrait être plus dans le partage. Ça devrait être... on devrait être tout égal, Seigneur. On travaille tout fort pour gagner notre pain, tu sais. Puis on regarde ça aujourd'hui, on se fait gober tellement en impôts. Quelqu'un qui travaille dans la construction, au final... il n'y a plus grand-chose dans ses poches, mais il travaille fort là, pour ça. Autant qu'un docteur va travailler fort, autant qu'un professeur va travailler fort, tu sais. Mm-hmm. C'est comme, je trouve que ouais, ceux qui font beaucoup, beaucoup, là, qui font beaucoup d'argent, ben ça serait bon qu'ils redonnent à ceux-là qui en arrachent un peu en bas. Là.
D'accord.
Ouais.
Et si tu pouvais être quelqu'un d'autre pour une journée, qui aimerais-tu être?
Ben, pour revenir à mon rêve de jeunesse, quand j'étais jeune, moi, j'ai toujours dit à ma mère, je vais remplacer Céline Dion.
D'accord.
Fait que moi, ben, peut-être pas dans son état qu'elle est aujourd'hui, mais j'aimerais ça, moi, vivre un show à Vegas, là, tu sais, comme un gros concert, là, dans une salle à Vegas, là, avoir mon gros show, là, une journée, là, puis je serais comblée, là, ce serait le rêve de ma vie, là.
Donc, tu voudrais être Céline Dion pour, disons, 24 heures, c'est ça?
Ouais, pas 24 heures, mais pas dans l'état qu'elle est vraiment, là. Mais dans le temps qu'elle était en forme, là.
Au top, là.
C'est chaud, là. Ouais, une journée comme ça, ça aurait été super.
OK, et si tu pouvais changer une chose dans ta vie, qu'est-ce que ce serait?
Ce serait vraiment de me libérer de mon trouble de la personnalité qui handicape ma vie, en fait. J'aimerais ça être une personne normale qui vit les émotions comme quelqu'un de normal, qui est capable d'aimer comme normalement, tu sais, de pas trop aimer au point d'étouffer une personne, tu sais, vraiment être stable émotionnellement, là, tu sais, de plus avoir de up and down, mais d'être capable d'être toujours sa même note, là, tu sais, d'être comme les gens normaux.
D'accord. Et si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu?
Je retournerais carrément à l'enfance. Mm-hmm. Puis je ferais le choix de pas donner le pouvoir à mon père de contrôler ma vie, dans le sens de... J'ai vécu tellement de violences psychologiques de sa part que je pense que j'aurais préféré vivre avec le vide de pas avoir de père que de vivre ça constamment puis d'avoir des peines d'amour constamment par rapport à mon père. Puis toute la violence psychologique qui me fait vivre à travers tout ça, tous les bobos que ça m'a occasionné, tu sais. Je suis dans le pardon, oui, aujourd'hui, mais si j'aurais la chance de revenir en arrière pour pas avoir toutes ces blessures-là qui m'ont fait mal, puis ne pas retransmettre ces blessures-là aussi à mes enfants, bien, j'aurais préféré pas les vivre, tu sais. Fait que, ouais, j'aurais le choix de revenir en arrière, mais j'y aurais jamais donné mon numéro de téléphone quand il est venu me chercher sur la route en revenant de l'école. Puis j'aurais continué à vivre ma vie avec ma mère, même si c'était pas la vie de rêve, mais non, j'aurais tassé tous ces bobos-là qui auraient été occasionnés par lui. Là.
D'accord. Et si tu avais à choisir entre pouvoir parler à tous les animaux ou pouvoir parler toutes les langues du monde? Que choisirais-tu?
J'aimerais vraiment parler toutes les langues du monde, étant donné que c'est mon rêve de jeune fille d'être chanteuse mondialement reconnue. Fait que je pourrais faire des chansons dans toutes les langues possibles pour que tout le monde puisse entendre la vie chantée.
D'accord. Et choisis un chiffre entre 1 et 10.
Je dirais le 9.
Le 9, où te vois-tu dans 9 ans?
J'aimerais avoir une belle vie stable, un conjoint, avoir ma famille à mes côtés à temps plein, avoir une belle vie de famille épanouie dans une belle maison, puis d'avoir une bonne stabilité financière, là, que ma carrière soit vraiment settée, puis que, tu sais, que j'aie une bonne petite vie normale, tu sais, avec des enfants, être heureux avec eux, là, tu sais, la stabilité que j'ai jamais eue, ben c'est ce que j'aimerais offrir à mes enfants également.
D'accord. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui passe par les mêmes troubles que toi, quel conseil donnerais-tu à une personne qui est perdue actuellement, qui sait que j'ai un problème ou qui se reconnaît dans tout ce que tu as décrit? Et quel conseil lui donnerais-tu?
Mais d'abord, je lui dirais d'aller chercher de l'aide, d'aller en parler. Il y a des fraternités pour toutes les sortes de dépendances, que ce soit les dépendances émotionnelles, affectives, dépendance au jeu, dépendance à l'alcool, dépendance aux substances, tu sais, d'aller dans des fraternités, parce que quand tu vas dans une fraternité, tu vas voir des gens qui sont comme toi, des gens qui te reconnaissent, des gens qui vont te valider, des gens qui vont te soutenir, des gens qui vont t'inspirer à aller mieux, qui vont t'accompagner dans ton cheminement, qui va être là pour toi, parce que, tu sais, si on est un « nous », c'est parce que c'est les gens qui viennent qui font en sorte qu'on est un « nous », parce que sans les gens qui y vont, on est tout seul, pareil. Mm-hmm. Puis quand on va là-bas, ben on n'est plus jamais seul. On va toujours avoir quelqu'un pour t'accueillir, les bras ouverts, pour t'écouter, pour t'entendre. Puis si tu crois que tu souffres du trouble de personnalité limite, ben va voir un psychiatre, va à l'urgence si tu as le goût de mourir, tu sais, va chercher de l'aide, attends pas qu'il soit trop tard, tu sais, fais pas un geste qui est irréparable, parce que passer au suicide, là, tu sais, puis c'est pas que j'y ai pas pensé, là, j'ai déjà eu ces pensées-là qui étaient cristallisées dans ma tête, puis ça a été dur de s'en défaire, mais c'est une solution permanente pour un problème temporaire. Mm-hmm. Fait que va chercher de l'aide, appelle où est-ce qu'il faut. Il ne faut jamais avoir peur et avoir honte de parler de ça. Parce que je sais que c'est un sujet tabou. C'est la raison pourquoi que j'en parle. Parce que je veux éveiller les gens qui souffrent en silence, puis je veux qu'ils sachent que c'est pas grave. C'est juste une étiquette. Puis une fois que tu vas avoir touché le doigt sur le bobo, puis tu vas savoir ce que tu es, puis que tu vas comprendre ce que tu vis, bien là, tu vas pouvoir apprendre à danser sous la pluie, puis c'est là que c'est beau.
Viviane?
Oui.
Merci.
Et merci à toi.
Ça y est, c'est déjà la fin. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci. Merci beaucoup à Viviane, que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux dans la description. T'as écouté jusqu'à la fin. T'as kiffé. Maintenant, laisse-toi aller. Abonne-toi, like et partage. Lâche-moi 5 étoiles si t'es sur Apple Music ou un commentaire si tu utilises des plateformes telles que Spotify ou Google Podcast et autres. Tout cela permettra de donner plus de visibilité au podcast dont je compte énormément sur toi. Suis-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésite pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast@gmail.com.
À chacun son histoire. Mais quelle histoire! À toi de le découvrir dans le prochain épisode. Ciao, ciao.